Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longhi pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec au menu le Conseil de sécurité préoccupé par la situation humanitaire en Syrie, campagne de vaccination contre le choléra en Irak, nous ferons le point sur les flux de réfugiés au Yémen et en Méditerranée. Dans le dossier coup de projecteur sur l'aide du programme alimentaire en Afghanistan après le tremblement de terre, enfin ce sera l'heure de Voix de Femmes. La situation en Syrie au menu du Conseil de sécurité ce matin. Stephen O'Brien, le chef de l'humanitaire à l'ONU, a rappelé que la résolution 2139 de février 2014 est censée protéger les populations victimes du conflit et préserver les infrastructures civiles. Or, pour le chef de l'humanitaire, le constat est cinglant avec une détérioration de la situation depuis le début de l'année. Actuellement, 13,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire à travers le pays, dont plus de 6 millions d'enfants. Tsige Chiferau.
Dans son allocution mardi devant les 15, Stephen O'Brien a rappelé que depuis le début du conflit syrien en 2011, plus de la moitié de la population a dû fuir les combats. Ainsi, selon les derniers chiffres, il y aura environ 6,5 millions de déplacés. À ce chiffre s'ajoutent plus de 4 millions de personnes qui ont quitté le pays. Le chef de l'humanitaire a également évoqué l'impunité à l'encontre des agresseurs qui poursuivent leurs attaques dans des zones civiles sans discrimination. Stephen O'Brien a aussi parlé des attaques ciblées contre les centres de santé et le personnel médical, ainsi que le manque d'accès aux soins de santé pour la population civile. Il a aussi dénoncé l'usage de l'état de siège comme arme de guerre par les différentes parties au conflit. Enfin, le chef de l'humanitaire a parlé de la livraison de matériel médical et humanitaire le 18 octobre dernier, démontrant, selon lui, qu'une amélioration est possible si la volonté politique le permet.
La Syrie où, selon l'Organisation mondiale de la santé, un cas suspect de choléra pourrait être confirmé chez un enfant de 5 ans décédé dans la province d'Alep. Le choléra qui frappe aussi l'Irak, là des centaines de cas ont été observés, d'où la campagne de vaccination qui va commencer à la fin du mois. Christian Lindmeyer, porte-parole de l'OMS.
En Irak, dès le 22 octobre, on a un total de 1942 cas confirmés, dont 15 de provinces, sur un total de 18 provinces, presque surtout de l'Irak, et 2 morts malheureusement. Là, en Irak, on va commencer avec une campagne de vaccination à partir du 31 octobre. On va utiliser 510 000 doses de vaccin. Et quand on a toujours besoin de 2 doses de vaccin pour une personne, alors on peut vacciner 255 000 personnes dans les 14 provinces.
Au Yémen, le bilan des victimes civiles du conflit continue de s'alourdir. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, depuis le 26 mars, 2615 personnes ont été tuées et 5193 blessées. Parmi ces victimes, 814 auraient été tuées à la suite d'attaques menées par les rebelles Houthis et leurs alliés, tandis que 1641 civils auraient été tués lors de frappes aériennes. Pourtant, malgré les violences sur place, des Somaliens et des Éthiopiens continuent de s'exiler au Yémen. Le point avec Alpha Diallo.
L'afflux des réfugiés et des migrants au Yémen ne se tarit pas malgré la dégradation de la crise humanitaire et les combats qui y font rage depuis plus de 7 mois. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, près de 70 000 réfugiés, demandeurs d'asile et migrants originaires principalement d'Éthiopie et de Somalie sont arrivés en bateau au Yémen depuis le début de l'année. Plus de la moitié de ces arrivées ont eu lieu depuis l'éclatement du conflit en mars, dont 10 000 arrivées enregistrées en septembre et 10 000 autres depuis le début du mois d'octobre. Au total, le pays accueille toujours plus de 246 000 réfugiés, dont la majorité sont des Somaliens. Et pourtant, sur place, l'insécurité et les difficiles conditions de vie ont poussé près d'un Yéménite sur 10 à se déplacer à l'intérieur du pays, occasionnant un record de plus de 2 305 000 déplacés internes et plus de 121 000 réfugiés dans les pays voisins depuis mars dernier. Selon le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 21 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans le pays, soit 80% de la population. Et le nombre d'enfants yéménites souffrant de malnutrition sévère dépasse les 500 000. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Et puis en Europe, le Haut Commissariat pour les réfugiés indique que plus de 700 000 réfugiés ont traversé la Méditerranée pour rejoindre le continent cette année. Un nouveau record qui confirme une tendance à la hausse mois après mois, malgré des conditions météo de moins en moins favorables. Les agences humanitaires rappellent à cet égard que la majorité des réfugiés sont des Syriens et représentent plus de 60% des arrivées. Isabelle Dupuis.
Le HCR indique que parmi les plus de 700 000 personnes arrivées en Europe par la Méditerranée et malgré des conditions météorologiques défavorables, le flot ne tarit pas vers la Grèce où 560 000 réfugiés et migrants se sont rendus cette année. Depuis le début du mois d'octobre, plus de 160 000 personnes ont choisi la Turquie comme pays de transit avant de débarquer majoritairement à Lesbos mais aussi dans les autres îles grecques de Chios, Samos et Leros. L'Italie a quant à elle été le point d'arrivée de 140 000 personnes. Mais selon l'Organisation internationale pour les migrations, si plus de 7500 réfugiés sont arrivés depuis le début du mois d'octobre sur les côtes italiennes, ils étaient plus de 15 000 à la même période l'an dernier. L'OIM attribue cette baisse au fait que les Syriens ne passent plus par la Libye pour rejoindre l'Europe. L'OIM souligne également que la traversée de la Méditerranée n'est pas sans danger. Plus de 3 200 personnes y ont perdu la vie depuis le début de l'année.
Enfin, en Côte d'Ivoire, alors que les résultats du premier tour des élections présidentielles pourraient être annoncés ce mardi, la mission d'observation de l'Union du fleuve Mano s'est prononcée sur le déroulement du processus électoral. Les précisions d'Angui Assouakon, représentant de l'Union du fleuve Mano, joint par Olga Kokodé Nounagnon.
La mission a reconnu que dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé et que les incidents qui ont été constatés ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. Néanmoins, il y a des défis qui ont été relevés, notamment l'arrivée tardive du matériel de vote, le fait que certaines tablettes électroniques ne soient pas fonctionnelles, et puis le fait que certains bureaux de vote, les agents n'étaient pas suffisamment formés pour les tâches qui leur étaient confiées. Il y a aussi le fait que les représentants des candidats ne portaient pas de badge d'identification. Mais en dépit de ces faiblesses, nous pensons que le scrutin, de façon générale, est assez crédible. Un mot à l'endroit des acteurs politiques, de leurs militants et des sympathisants, en leur demandant d'observer le calme. Nous suivons de très près les étapes restantes du processus électoral, et pour nous, c'est des moments très décisifs pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité, le développement non seulement de la Côte d'Ivoire, mais des autres États membres de l'Union du fleuve Mano que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur le violent tremblement de terre qui a secoué l'Afghanistan. Une secousse ressentie aussi au Pakistan et dans le nord de l'Inde. Des dizaines de familles ont été déplacées alors que l'hiver approche. Claude Jibidar, représentant du PAM en Afghanistan, souligne que le prépositionnement des stocks a permis de joindre les zones difficiles d'accès et que des convois chargés d'aide fournis par les agences humanitaires et le gouvernement sont déjà arrivés sur place. Des propos recueillis par Florence Westgaard.
Un tremblement de terre d'une magnitude importante, survenu dans une zone qui est une zone qui était déjà très fortement affectée par les conflits, où nous avions déjà beaucoup de personnes déplacées. Alors quand ce tremblement de terre a eu lieu, on sait qu'un certain nombre de villages reculés ont été affectés, mais ces villages se trouvent dans des zones qui sont des zones de conflits, des zones contestées pour un certain nombre d'entre elles. Donc l'information a été difficile à aller chercher et comme en même temps les réseaux de communication, particulièrement le téléphone, ont été affectés, la collecte où l'arrivée de l'information prend du temps. Il y a certains endroits où le PAM a pu déjà dépêcher des équipes pour aller évaluer la situation dans les villages. Pour le moment, ce que nous avons comme information n'est pas, je dirais, en termes de personnes décédées, des chiffres énormes. Les voisins du Pakistan ont des chiffres plus importants que nous en ce moment. Nous avons des dizaines de milliers de familles qui sont déjà déplacées dans la zone. Nous avons l'hiver qui est en train de s'installer. Et vous savez, l'hiver afghan dans les montagnes est terrible pour les femmes, pour les enfants. Et nous sommes aussi confrontés aux problèmes d'accès parce qu'il a commencé à neiger dans certains endroits et que passer certains cols devient problématique.
Donc, vous dites que vous avez commencé justement à apporter du secours à certaines personnes. Donc, comment ça se passe? Parce que vous dites que beaucoup sont dans des régions reculées ou dans des zones de conflit. Donc, comment vous allez arriver à atteindre ces personnes et comment vous avez commencé à apporter votre aide?
Nous travaillions déjà dans ces zones. Dans certains endroits, nous avions même déjà réussi à prépositionner des stocks, pratique que nous faisons tous les ans. Au début de l'hiver, où nous prépositionnons des stocks dans certains endroits. Aujourd'hui, on arrive à aller dans des zones qui sont sous le contrôle de différents groupes parce que petit à petit, les gens comprennent ce qu'est l'action humanitaire, comprennent l'action du PAM, et on arrive à envoyer nos camions, même si moi-même, je ne peux pas aller dans certains endroits, mais nous avons des partenaires, des collègues qui peuvent accéder à certains de ces endroits. Donc ça veut dire que ce n'est pas totalement impossible.
Et quelles sont justement les choses primordiales que vous allez leur apporter? Et est-ce que vous travaillez justement avec les autres organismes comme l'UNICEF et les autres organismes sur place?
Nous avions organisé des convois qui étaient des convois composés de biens apportés par différentes agences des Nations Unies. Il y avait des vivres, il y avait des non-vivres. Et cette assistance était une assistance qui était coordonnée avec tous les acteurs principaux, y inclut le gouvernement. Dans ce cas-ci, ce que nous allons apporter aux gens dès que nous pouvons avoir accès, c'est particulièrement de la nourriture. Ce que le PAM, lui, fait en particulier, ça va être l'assistance alimentaire. Mais nous avons tous les autres partenaires qui interviennent. Et puis, bien sûr, s'assurer que ces gens puissent avoir accès à des services de santé minimum.
Voix de femme.
Il y a quelques jours, le film « L'homme qui répare les femmes » était projeté au siège des Nations Unies à New York. Réalisé par le cinéaste belge Thierry Michel, le documentaire rend hommage au travail du gynécologue Denis Mukwege qui, depuis 20 ans, répare à l'est de la RDC les femmes victimes de viols et autres violences sexuelles. Parmi les nombreux invités présents figurait Jeannine Mabunda Lioko, la représentante personnelle du chef de l'État congolais chargée des questions des violences sexuelles et le recrutement des enfants. Tsige Chiferau lui a tendu son micro.
Nous défendons la même cause. Je crois qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les femmes pensent qu'elles ne veulent plus être des femmes à genoux qui pleurent, comme on va voir dans le film, mais elles veulent aussi être des femmes debout, qui vont au-delà de l'expérience malheureuse du viol. Et je pense qu'on n'aura pas assez de toutes les mains, de toutes les bonnes initiatives pour que cette cause soit une cause nationale. C'est ce que le chef de l'État, je pense, a voulu exprimer en juillet 2014 lorsqu'il a décidé d'ouvrir un bureau qui soit dédié à cette cause et où humblement, j'essaie de faire ce que je peux aux côtés des ONG, de la société civile, aux côtés aussi du gouvernement qui a des réponses publiques et aux côtés des partenaires internationaux. Donc voilà, c'est une façon de dire unis on est plus fort, unis et ensemble on peut aller plus loin sur cette cause.
Comment se fait-il que ce film puisse être vu aux États-Unis et non pas en RDC ?
Le film, au départ, a connu effectivement un problème de censure il y a environ un mois et demi, parce qu'il y avait peut-être certains passages dans le film qui donnaient lieu peut-être à une mauvaise représentation en ce qui concerne peut-être le rôle des forces armées. Je pense qu'il y a eu un dialogue, il y a eu des recherches de pistes de solutions auxquelles on a essayé de participer pour établir des ponts entre les uns et les autres. En fait, depuis lundi, le film est visible en RDC. Pourquoi depuis lundi? Parce qu'en même temps qu'on travaille sur cette question de violence sexuelle, on se rend compte que les gens ne sont pas bien informés au niveau de la population de base. Nous avons une loi, la loi de 2006, qui condamne le viol, mais peu la connaissent. Et donc, il faut éduquer, il faut alerter, il faut informer. Et nous avons lancé une campagne depuis le mois de septembre à Kinshasa, qui se poursuit en octobre et novembre à Goma et à Bukavu. Et Bukavu est une des villes où la fondation Panzi est établie. Et donc, je pense que c'était un clin d'œil aussi de dire « nous brisons le silence ». Il l'a dit dans son film, moi je le dis dans la campagne qu'on a lancée. Et donc, on a pensé que c'était une façon d'avoir des synergies positives.
Avez-vous travaillé avec le docteur ou en tout cas, avez-vous l'intention de collaborer ensemble ?
Nous sommes l'État. Nous donnons une réponse publique au niveau des institutions, du ministère de la Santé, du ministère de la Défense quand il faut appliquer la justice militaire, du ministère de la Justice quand il faut tout simplement que les parquets civils reçoivent les plaintes des victimes de viol. Et nous travaillons avec les ONG. J'avais rencontré le docteur Mukwege en mars 2013 lorsque le Congo avait été une nouvelle fois agressé par ses voisins, par le M23. À ce moment-là, j'étais députée et en tant que personne qui était de l'autre côté du Congo, avec d'autres femmes, on avait décidé d'aller montrer notre solidarité aux femmes de Goma et de Bukavu qui étaient à ce moment-là sous une occupation du M23. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré le docteur Mukwege, mais d'autres ONG aussi, parce que je tiens à préciser qu'il y a aussi Kadi Azuba qui anime une ONG des femmes de médias justement pour dénoncer les violences sexuelles. Il y a Madame Lusenge qui a une ONG en province orientale, Sophie Padi, qui s'occupe de la même cause. À Kinshasa, vous avez l'hôpital de Kitambo, qui est un hôpital qui donne des soins gratuits pour les femmes violées. Et donc, je pense que toutes les initiatives qui feront que le Congo pourra faire reculer cette cause est à recommander. Évidemment, rien n'est parfait. La réponse publique, elle a commencé après la défaite du M23 parce qu'on peut enfin aller dans les anciennes zones de conflit où nos sœurs étaient malmenées. C'est un défi, c'est vrai que c'est un combat, c'est pas facile tous les jours. C'est vrai qu'on essuie parfois des critiques. On le prend comme un nouvel élément pour mieux avancer.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.